Vous écoutez France Musique.
Les traverses du temps. Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'été, c'est bientôt d'ailleurs aussi la saison d'été de France Musique. Alors je pense qu'il nous fallait bien ce soir, non pas une guitare, mais quatre guitares. Ils sont quatre garçons, je dis des garçons parce qu'ils sont très jeunes. Ils viennent d'ailleurs de répéter leur prochain concert parce qu'ils ont un succès fou. Et c'est un des rares finalement quatuors de guitare français. Il s'appelle le Quatuor Eclis. Je vais commencer par les saluer. À droite, j'ai Benjamin Valette.
Bonjour.
Bonjour, Benjamin Valette. Et à côté, Pierre Lelièvre.
Bonjour.
Et ensuite, Gabriel Bianco.
Bianco, oui, bonjour.
Et puis, quand même un hispanisant, eh oui. Il est basque, mais il parle quand même le castillan. Il s'appelle Arcaïtz Chambonnet.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je commence par qui ? Ben, peut-être Benjamin. Il n'y a pas de premier guitariste dans le quatuor.
Non, voilà une des caractéristiques de notre quatuor. C'est qu'il n'y a pas de leader. Tout le monde est sur un pied d'égalité, dans le sens où nous réalisons des transcriptions, où la mélodie passe d'un pupitre à l'autre, où chacun, à tour de rôle, a un rôle prépondérant d'accompagnement ou de soliste, parce que nous sommes avant tout solistes avant de faire partie de ce quatuor. Donc c'est une des caractéristiques de notre quatuor, parce que souvent il y a un leader, mais chacun a sa spécificité, par exemple...
Comme dans un quatuor à cordes, quoi.
Dans un quatuor à cordes, justement, chacun a un rôle assez défini. Le violoncelle a le rôle de la basse. Là, le rôle de la basse passe d'un pupitre à l'autre. Et même, par exemple, pour réaliser des transcriptions, nous essayons d'équilibrer, chacun donne son avis. Et même s'il y en a souvent, même pour la plupart, c'est Gabriel qui a fait les premières transcriptions, c'est voué à tourner. Et voilà.
Gabriel Bianco, il faut donc bien s'entendre, si je comprends bien, dans un quatuor qui fonctionne comme ça.
Mais alors, on fait ce qu'on peut.
Mais comment vous vous êtes rencontrés ?
Alors nous, on est tous issus du CNSM de Paris.
C'est-à-dire le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à la Villette.
C'est ça. Et donc on était étudiants à peu près au même moment, donc début des années 2010. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Et à la fin, quand on passe notre diplôme, on se dit toujours qu'on va se revoir, on fête un peu nos examens, et en réalité, on ne revoit jamais, enfin très rarement, nos compagnons de promo. Et on s'est dit que plutôt que de se perdre de vue, on ferait un projet musical ensemble. Donc on a décidé, on a lancé ça un petit peu comme une boutade, hein, de faire ce quatuor, et puis bon, on s'entend bien, et puis voilà, ça fait deux ans et demi qu'on joue ensemble.
Pierre, l'idée de fonder un quatuor à cordes vous est aussi venue parce que vous connaissiez des quatuors à cordes qui existaient déjà. On en connaît en Amérique, en Espagne. Quels étaient les quatuors
de guitare,
hein.
Quatuor à cordes.
Parce que les guitares ont plein de cordes. Voilà.
On connaît, bon, à la base, c'est vrai que la guitare, c'est un instrument soliste. Il y a eu beaucoup de duos aussi, par exemple le duo Presti-Lagoya, etc. Mais le quatuor de guitare est beaucoup plus rare. Mais il y a quand même ce quatuor, le Los Angeles Guitar Quartet, qui a fêté, je crois, ses 40 ans de carrière.
Oui, il me semble, il est né en 1980, je crois.
Alors, peut-être 30 ans plutôt. Voilà, 30 ans, oui. Mais voilà, c'est un quatuor qui, pareil, a fait beaucoup de transcriptions. Donc, nous, ça nous a donné des idées. On s'est dit que finalement, c'était possible d'avoir une formation comme ça qui puisse s'inscrire dans la durée.
Et ils ont été célèbres, tous ces quatuors de guitare en Amérique, par leurs interprétations de Federico Moreno Torroba, qui est dans votre disque. Et ce sont ces fameuses estampas, on ne sait d'ailleurs pas quand il les a composées. On va écouter le Fandango Charro, ça n'a rien à voir avec le Mexique, mais le Fandango de Salamanque, et la Ciega, la Moisson, le quatuor de guitare Eclis. Thank you. c'était deux des quatre estampes. Il y en a bien quatre, huit, je me trompe. Huit. Ah bon, j'en ai choisi quatre ce soir, c'est pour ça. Deux des huit estampes pour guitare de Federico Moreno Torroba. Je vous donne ces dates pour comprendre un peu de quelle époque, 1891-1982. D'abord un fandango de Salamanque et la moisson par le quatuor de guitare Eclis. Je me tourne bien sûr vers le basque de service, Arcaïtz Chambonnet. Pour interpréter ce genre de musique, par exemple, Arcaïtz, vous avez toujours des racines dans votre pays basque. C'est à Bilbao, je crois.
Oui, à Bilbao, effectivement. Moi, j'ai grandi avec, avec les enregistrements de Andrés Segovia. Donc, c'est vrai que j'ai des références dans la tête par rapport à cette musique-là. Mais nous avons tous également des références. On a tous une histoire différente. On a tous des choses à dire. Il faut qu'on se mette d'accord quand on joue une pièce.
Et heureusement.
Voilà, c'est ça qui est intéressant quand
Mais par exemple, si je vous dis Federico Moreno Torroba, ça vous disait quelque chose plus qu'aux autres, peut-être, non, même pas.
Je suis pas sûr.
Dans votre famille, on le connaissait quand même.
Dans ma famille, c'est possible, oui, en tant qu'auteur de Sarsuelas, puisque c'est l'un des principaux auteurs au XXe siècle. Encore une fois, le répertoire de espagnol. Fait vraiment partie de notre histoire en tant que guitariste et on a vraiment tous, on est tous passés par cette musique-là. Voilà.
D'ailleurs, je le sens dans votre programmation, Benjamin par exemple, vous aviez choisi, tous les quatre d'ailleurs, qu'on n'entende Paco de Lucía.
Oui, parce que nous voulions faire écouter de la guitare dans ce qu'il y a de vraiment populaire. Paco de Lucía est décédé cette année, comme chacun sait. Et c'était aussi pour parler peut-être des différences qu'il pouvait y avoir entre un jeu typiquement flamenco et le jeu qu'on a à la guitare classique, dans le sens où dans la guitare flamenco, il y a beaucoup plus de percussions, il y a les rasguado que nous avons pris par exemple pour notre formation et pour le répertoire de la guitare. Donc on a plutôt extrait et enrichi la guitare classique grâce à ces modes de jeu-là du flamenco.
On va écouter un enregistrement magnifique d'un chanteur que vous aimez tous les quatre énormément, qui s'appelle Fosforito. Pour nos auditeurs, Fosforito a gagné le concours de Cante Rondo qui n'existait plus depuis 1922. En 1956, c'est lui qui l'a gagné. On va l'écouter avec Paco de Lucía dans ce merveilleux chant qui est « Yo soy la noche y tú el día »,« Je suis la nuit et toi tu es mon jour ».
Soy la noche y tú mal día. Yo soy la sed y tú agua pura. Yo tú no sé. Soy el hambre y tú mi hartura. Yo tristeza. Yo el loco.
Paco de Lucía qui accompagnait Fosforito dans ce chant « Yo soy la noche y tú el día »,« Je suis la nuit et toi le jour ». Gabriel, vous avez parlé d'arrangement dès le début de l'émission, que vous faisiez les arrangements aussi pour que tout le monde participe, que tout le monde ait un moment le rôle de la basse, du ténor, de, je parle comme un chanteur là. Et vous en faites tout le temps des arrangements.
Alors bah, c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle on a commencé le quatuor. C'est parce que quand on est guitariste, parfois on sent qu'on n'a pas accès à tout le répertoire. Et pour combler ce manque, on a décidé dès le début, on s'est réunis tous les quatre, on dit on va jouer du Rossini, du Bach. Voilà, donc le Rossini qu'on écoutera tout à l'heure. Et notamment faire des transcriptions qui sont véritablement prendre le texte d'origine, que ce soit pour orchestre ou pour piano, et le réinventer en quelque sorte pour quatre guitares, c'est-à-dire répartir les rôles, que chacun ait à un moment donné la mélodie, la basse, l'accompagnement, mais surtout lui donner un côté instrumental. Donc c'est quelque chose,
Et vous avez pris un exemple, vous m'avez dit, pour parler de ça, je voudrais qu'on écoute Guy Don Kremer jouant les quatre saisons de Buenos Aires de Piazzolla. Parce que c'est lui qui a fait l'orchestration, c'est ça, un arrangement aussi.
Voilà, là, c'est un véritable arrangement, c'est un enregistrement qu'on aime beaucoup, parce qu'il retravaille énormément le texte original, et puis il y ajoute quelques petites citations des quatre saisons de Vivaldi, puisqu'il avait fait un disque justement en parallèle. Voilà, et bien évidemment, au niveau de l'orchestration, c'est absolument magnifique. Là.
On va écouter l'une de ces saisons, c'est la Primavera Porteña, le printemps à Buenos Aires, Guy Don Kremer avec la Cremerata Baltica. Thank you. La merveilleuse orchestration de Gidon Kremer qui interprétait ici le printemps extrait des quatre saisons de Buenos Aires de Astor Piazzolla avec sa Cremerata, j'aime bien ce nom, Baltica. Et maintenant, on va écouter, alors je m'adresse à Pierre maintenant, on va écouter un compositeur argentin. Vous me faites découvrir, je pense que beaucoup d'auditeurs aussi vont le découvrir, c'est drôlement beau. Il s'appelle Máximo Diego Pujol.
Voilà. Compositeur
de Buenos Aires, justement.
Voilà, compositeur argentin et donc, pour le coup, un guitariste. Donc, c'est une pièce Grises y Soles, les gris et clairs. Alors, c'est une opposition entre les gens fortunés des villes et les plus pauvres des bidonvilles, justement.
Alors, les grises, ce sont ceux qui sont pauvres et les soleils, le soleil, ce sont les... Peut-être que ce n'est pas ça, d'ailleurs.
Peut-être. Hein. Et donc, là, une pièce écrite originalement pour quatuor de guitare. Et ce qui est amusant, c'est que, comme assez souvent dans les pièces originales pour quatuor de guitare, il y a vraiment une répartition. Alors, une première guitare qui a tous les thèmes, toutes les mélodies, la quatrième guitare qui a la basse.
Poum, poum, poum.
Voilà, mais avec des petites choses un peu sympas. Une deuxième guitare, des contrechamps. Et la troisième guitare, vraiment quelque chose de très minimaliste. Donc, on se dit qu'on allait couper et puis se répartir un peu mieux. Surtout que moi, étant la troisième guitare, j'avais pas grand-chose à faire. Donc, on en a discuté. Puis après, on a fait quatre parties à peu près équilibrées. On a tiré au sort pour... pourquoi là ? Puis c'est devenu un peu notre tube qu'on a, je crois, on a joué à chacun de nos concerts jusqu'à présent.
Mais c'est vraiment très beau. grises y soles, les gris et les soleils, les clairs, par le quatuor de guitare Eclis. Il est 19h34, passé de quelques secondes. Vous écoutez France Musique, les traverses du temps. Nous sommes donc en compagnie des quatre guitaristes de ce quatuor Eclis. Et nous écoutions cette musique de Máximo Diego Pujol, né en 1957 à Buenos Aires. Vous enregistrez où exactement? Je pose la question à Benjamin.
On avait l'habitude d'enregistrer dans le prieuré, dans la Creuse, de Anne et Jean-Yves, qui s'occupent du label Ad Vitam Records, qui nous font confiance maintenant depuis plusieurs années à travers divers enregistrements, et qui sont amenés à nous faire encore confiance par la suite. Et voilà, on a eu la mauvaise surprise de savoir que le prieuré avait brûlé. Donc, ils font un travail formidable pour tout, pour que le label perdure, et il perdure d'ailleurs, et ils en sont ressortis plus forts. Donc, voilà.
Et vous allez enregistrer encore un prochain disque?
Le prochain disque que nous allons enregistrer à 4, ça sera fin août, avec des nouvelles transcriptions, justement.
Et on ne dit pas lesquelles, hein, bien surprise, c'est ça. Arcaïtz, on va écouter du Ravel. Alors je me tourne vers vous, le Pays Basque.
Bien évidemment. Mais Maurice Ravel est un compositeur qui nous inspire beaucoup, puisque c'est l'un des plus grands orchestrateurs de tous les temps. Et l'une des qualités de la guitare, c'est sa capacité à pouvoir varier les timbres. Comme un orchestre, d'ailleurs, c'est Hector Berlioz, un excellent orchestrateur aussi.
Qui et guitariste, il me semble.
Guitariste également, oui. Qui disait que la guitare était un petit orchestre. Voilà, et donc c'est vraiment un aspect, je pense, important pour nous, qu'on travaille beaucoup.
Et bien, on va écouter du Ravel à l'orchestre. Vous continuerez à nous parler de Ravel pour la guitare après.
D'accord.
Ok, Arcaïtz. On va écouter la Forlane du tombeau de Couperin. Vous avez choisi une interprétation superbe d'ailleurs de l'orchestre de Cleveland. Direction Pierre Boulez.
Thank you.
Pierre Boulez à la tête de l'orchestre de Cleveland dans la forlane du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Je vous rappelle que nous sommes avec le Quatuor Eclis, quatre guitaristes. Et en parlant de Ravel, je m'étais tourné à l'instant vers Arkaitz, qui est basque comme Maurice Ravel. Et sur France Musique, Arkaitz, vous avez joué pour France Musique dans l'émission de Frédéric Lodéon un arrangement de Ravel.
Exactement, on a eu le plaisir de jouer en avril dernier pour l'émission Plaisir d'amour de Frédéric Lodéon. Donc là, on attaque des, on va dire des transcriptions un peu plus ambitieuses de compositeurs.
C'était l'Alborada Gracioso.
Voilà, c'est ça, extrait des miroirs. Alors, on s'est inspiré, donc comme vous le savez, il y a la version piano qui est la première version, et Ravel a fait une version pour orchestre également. On s'est inspiré, on va dire, plus de la version pour orchestre. Notamment, on fait des percussions sur les guitares. Et on va dire qu'on hispanise un peu encore plus cette musique avec les rasgado qui sont...
Les rasgado, il faut expliquer aux gens, c'est quand tous les doigts font « ram », c'est ça, hein.
Voilà, comme Paco de Lucia tout à l'heure.
Ben justement, Gabriel, là où on ne vous attend pas, c'est quand même une ouverture d'opéra de Rossini. Là, vous faites fort quand même.
Ben, on avait envie de jouer un peu de musique romantique à quatre guitares. Et alors, on a pris cet opéra parce que quand Rossini a été nommé à l'Opéra de Paris, c'est la première œuvre qu'il a fait créer. Donc, on a joué l'ouverture, qui sont donc les premières notes qui ont résonné sous cette direction.
Le siège de Corinthe.
Voilà. Et bon, ben, il s'agit de notre première transcription. Donc c'est un petit peu, voilà, on est très ému de vous la faire découvrir.
Eh bien, on va l'écouter tout simplement.
Thank you.
J'ai l'impression que Rossini aurait applaudi ses arrangements de son ouverture du siège de Corinthe. C'était la deuxième partie de l'ouverture par le Quatuor Eclis. Pierre, en fait, on est en train de retrouver maintenant une espèce de liberté qu'il y a toujours eu dans la musique d'adapter, d'arranger, d'orchestrer différemment, non ?
Oui, finalement, on s'inscrit vraiment dans la continuité de tous ces interprètes. Alors là-bas, c'est vrai qu'au 19e, les guitaristes, compositeurs étaient interprètes. Donc, ils écrivaient des choses originales, mais autrement, ils s'inspiraient de l'opéra qu'ils avaient entendu la veille, peut-être. Ils reprenaient un thème, ils faisaient des variations. C'est vrai que même encore avant, Bach lui-même, le même thème ou la même section, on la retrouve un peu dans, peut-être 10 œuvres différentes. Donc finalement, on se dit que pourquoi pas nous aussi.
À la guitare. Voilà. Et vous vous intéressez justement, Benjamin, vous vous intéressez aussi aux autres quatuors un peu comme ça originaux ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au conservatoire, on côtoie énormément de musiciens, dont des saxophonistes, qui eux font énormément de quatuors dès qu'ils sont assez jeunes, en fait, dès leur plus jeune âge. Et ils perdurent ça, ils ont toujours cette tradition qu'ils ils font beaucoup de transcriptions une fois arrivés chez les grands pour ouvrir leur répertoire. Parce que l'idée aussi de notre quatuor et de faire des transcriptions, c'est d'ouvrir le répertoire. Puisque quand on regarde uniquement les œuvres originales, il n'y a pas 5 heures de musique. Donc vite, on a eu envie de faire ça. Donc on a pensé à un quatuor de saxophone. Pour vous faire écouter d'autres formations qui utilisent aussi beaucoup les transcriptions.
Ce qui m'a frappé d'ailleurs dans mes errances latino-américaines, c'est le nombre de quatuors de saxophones qu'il y a dans chaque pays, du Rio Grande à la Patagonie, et de quatuors de clarinette aussi. Ça, c'est une grande spécialité latino-américaine. Alors, vous avez choisi de nous faire entendre le quatuor qui s'appelle d'ailleurs Habanera, qui est un quatuor de saxophone français, n'est-ce pas ?
Oui.
Et vous avez choisi du Grieg. On va écouter extrait de Autant de Holberg, le Rigaudon. Thank you. Quatuor de saxophone qui s'appelle Habanera et qui est tout à fait français dans ce rigodon de l'œuvre de Edward Grieg qui s'appelle Au temps d'Holmberg. Maintenant, vos concerts. Le Quatuor des Églises, quand il est en concert, il faut aussi le voir et il y a une ambiance formidable. Benjamin.
J'espère. Oui, c'est formidable.
Non, en tout cas, c'est vrai que vous parlez au public, vous n'hésitez pas.
Voilà, nous, on a vraiment une démarche vraiment presque pédagogique, puisque les gens connaissent, tout le monde connaît la guitare, mais pas forcément les œuvres qu'on interprète. Quand on pense guitare, on pense Asturias, on pense Jeux interdits, aux grandes œuvres très célèbres pour guitare seule. Mais c'est vrai qu'en tant que quatuor de guitare, tout est à découvrir pour les gens. Donc on a toujours un petit mot, une petite anecdote pour décrire les œuvres que nous interprétons, pour que les musiciens déjà puissent découvrir l'instrument, puisque peu de musiciens, de violonistes, pianistes connaissent vraiment bien la guitare, et pour que les gens qui aiment la guitare découvrent aussi les grandes œuvres du répertoire qui ne sont pas jouées à la guitare. C'est vraiment les deux démarches que nous avons en concert.
Parmi les prochains concerts, on va le signaler le 18 juillet. C'est tout bientôt, c'est les rencontres européennes de Courseul. Courseul, c'est près de Caen.
C'est ça.
Et après, l'hôtel d'Albret, ça c'est chez nous, France Musique, hein, à l'hôtel d'Albret, le 29 août. En plus, vous êtes présenté par la pétulante Émilie Munera. C'est un concert qu'il ne faudra pas rater à l'hôtel d'Albret le 29 août. Et à la rentrée, alors, qui parle de ça? Oh, ça va être Gabriel, je sens.
Donc, on sera en concert au Théâtre du Châtelet le 14 septembre. Voilà, donc à 11h. Donc pour les Parisiens qui nous écoutent, on vous invite chaleureusement à venir nous rejoindre. Et je pense que c'est gratuit en plus.
Non, c'est pas gratuit. Mais c'est un spectacle qui est aussi tourné vers les jeunes publics. Donc c'est à 11h du matin. Donc on va présenter comme d'habitude nos œuvres. Et j'espère que ça sera assez ludique pour les gens.
Voilà, et c'est pas tous les jours qu'on a de la guitare au Châtelet. Donc...
c'est vrai. Et on va se quitter en faisant vibrer l'âme basque de Arcaïtz, bien sûr. De nouveau, Federico Moreno Torroba.
Exactement, donc les deux derniers mouvements des estampas. Voilà.
Camino del Molino, c'est quand on va vers le moulin.
Voilà, le chemin du moulin.
Juegos infantiles, les jeux d'enfants. Il faut quand même dire que Moreno Torroba a été le grand ami des parents de Placido Domingo, qu'il a même composé un opéra pour Placido Domingo qui s'appelait Le Poète. Je crois que ça a été créé dans les années 80. On va se quitter avec ces estampas de Federico Moreno Torroba, le quatuor de guitare Eclis. Thank you. C'était deux des estampes de Federico Moreno Torroba, Camino del Molino, le chemin du moulin, et Juegos Infantiles, les jeux d'enfants par le quatuor de guitare et Clis. Je vais vous donner leur nom et on va se séparer comme ça. Il y avait Gabriel Bianco, Arcaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre, Benjamin Valette. Merci beaucoup d'avoir été tous les quatre avec nous ce soir dans le studio de France Musique et à bientôt sur scène quand on ira vous écouter. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Et maintenant, merci aussi à l'équipe des Traverses du Temps ce soir. C'était Frédéric Potry, François Pron, Cyril Zvetosevitch, Martine Monnier à la production. Et ce soir, c'est Jean-Pierre Collard qui a réalisé l'émission.